nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
À l'occasion du 10e anniversaire de l'Euro, Canal Académie vous propose de faire un point sur la sortie de crise et la question de l'euro avec donc Philippe Jürgensen, que nous connaissons bien, chroniqueur à Canal Académie, spécialiste et économiste, et Guillaume Clossat, président du think tank Europa Nova, auteur du livre « Europe, dernière chance ». Europa Nova a relancé l'idée en 2009 d'un fonds de sauvetage européen et la nécessité d'une gouvernance économique européenne. Alors Philippe Jürgensen, je vous laisse la parole pour justement alimenter cet entretien.
Merci Émilie. Ce 10e anniversaire de la mise en circulation des billets et des pièces en euros est un anniversaire morose et inquiet. On n'a pas fait de grandes festivités pour l'occasion et ça se comprend parce qu'on doit bien constater que l'euro est attaqué un peu systématiquement sur les marchés financiers et également, ce qui est en réalité plus préoccupant, qu'il connaît un recul dans l'opinion publique. Les sondages montrent bien que l'inquiétude monte chez les utilisateurs de l'euro, que sont tous les citoyens français et européens. Je crois que cette inquiétude n'est pas fondée et résulte de trois grosses erreurs de perspective. La première erreur, c'est que l'euro est perçu comme une monnaie faible, alors qu'il est une monnaie forte, sans doute même trop forte, quand on voit son cours sur les marchés d'échange. Alors évidemment, les gens lisent des titres successifs dans lesquels on met accès de faiblesse de l'euro, mais c'est un accès de faiblesse très relatif par rapport à une force très grande. En tout cas, à son cours actuel, l'euro, sur l'ensemble de l'année 2011, malgré tous les coups de boutoir qu'il a subis, n'a en tout change effectif, comme le disent les économistes, baissé que de 1,2% contre toute monnaie, et il est encore surévalué, pas sous-évalué, d'environ 10 à 15%. En tout cas, il est nettement au-dessus de son cours d'introduction, puisque il y a 10 ans, l'euro valait 1,17 $ au moment où il a été lancé sur les marchés, et il vaut aujourd'hui 1,30 $. Donc ça, c'est le premier point. L'euro est en réalité une monnaie forte, on l'oublie un petit peu. Deuxième point, l'introduction de l'euro a été perçue comme un facteur d'inflation. Les gens, dans leur esprit, lient l'introduction de l'euro à une hausse excessive des prix. Ça aussi, c'est totalement faux, c'est une erreur de perspective. Les sondeurs d'opinion ont d'ailleurs étudié ce basculement très curieux qui fait qu'à partir de l'introduction de l'euro, les gens se sont mis à surestimer très fortement l'inflation constatée. Il faut, dans ce domaine, être sobre et regarder les chiffres. Qu'est-ce que nous disent les chiffres? C'est que depuis l'introduction de l'euro, l'inflation, la hausse des prix, a été en moyenne de 1,7% par an. Nous sommes la seule zone dans le monde, ça n'est pas le cas en Grande-Bretagne, ça n'est pas le cas en Amérique, ça n'est pas le cas, si, au Japon, mais nous sommes la seule zone importante où l'inflation reste inférieure à 2%, qui est l'objectif de la BCE. D'ailleurs, tout le monde sait bien que la BCE a un objectif un peu systématique et qu'elle se focalise sur l'inflation, mais au moins dans ce domaine-là, elle réussit, notre inflation est faible. Malheureusement, elle est perçue comme forte, à tort. Il y a eu un article très intéressant dans Le Monde à partir d'études de l'INSEE qui donnait les prix des produits qui ont augmenté. Il y en a qui ont augmenté plus que la moyenne, par exemple le café sur le zinc, par exemple l'essence, mais ça c'est pas dû à l'euro, c'est dû à la situation des marchés pétroliers. Mais il y a aussi des produits qui ont baissé et ceux-là tout le monde les oublie. Et cet article, qui pourtant émane d'une source incontestable pour les consommateurs, puisque c'est la revue Que Choisir, cet article montre bien, avec des comparaisons concrètes de produits que tout le monde consomme, cet écart très curieux entre l'inflation réelle qui est faible et l'inflation perçue, qui est beaucoup plus forte et qu'on attribue en plus injustement à l'euro. Le troisième facteur, c'est que l'euro est perçu comme un facteur d'augmentation du coût de la dette publique. Là aussi, il faut le dire fortement, c'est une erreur totale. La dette publique, quand il y avait le franc, nous coûtait beaucoup plus cher. Nous avions des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que ça n'est le cas aujourd'hui avec l'euro. Quand nous empruntions en francs, nous empruntions à des taux de 6-7% en moyenne. Et l'Italie et d'autres pays ont des taux encore bien plus élevés. L'euro nous a permis d'avoir des coûts d'emprunt plus bas. C'est encore vrai aujourd'hui. Il faut savoir que nous empruntons, malgré la crise de l'euro, moins cher fin 2011 que début 2011. Nous empruntons, pour les emprunts à long terme, à 10 ans, à un taux de 3,30%, qui est un taux bien plus bas que ce qu'on a connu historiquement, et qui est un taux, par exemple, inférieur à ce qui est budgété pour 2012. Voilà. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup d'idées fausses, d'exagérations, d'aberrations même, dans ce jugement des marchés et de l'opinion sur l'euro. On peut seulement espérer que les réalités finiront par être comprises et par l'emporter dans l'esprit des gens. Mais Guillaume Clossart va nous dire comment ça se présente de son point de vue.
Je crois que la grosse difficulté de l'euro, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une dynamique d'un projet qui était un projet véritablement politique et qui a été porté par Mitterrand, par Kohl, par Delors au début des années 90, et que la création de l'euro comme monnaie de l'Europe et des Européens nécessitait l'étape suivante que Delors a rappelée dès le milieu des années 90, c'est la création d'une gouvernance politique, d'une intégration économique accrue et une étape vers une véritable fédération européenne incarnée. Et le hiatus entre une monnaie qui est aujourd'hui portée par une banque centrale européenne et l'absence en face de porteurs d'une parole politique européenne forte, ça aurait pu être la Commission qui porte cette parole, ça aurait pu être le président du Conseil européen, mais d'instance politique qui porte cette parole, fait que le lien entre les citoyens et la monnaie est extrêmement faible. Et d'un point de vue symbolique aussi, il y a eu quelque part un manque de courage, et je dirais une sorte de technocratisation de la monnaie, c'est qu'il y a un moment où on aurait dû quand même réfléchir à mettre des individus, des symboles sur les billets. Et Dieu sait que parmi les personnalités des différents pays, il y a des personnalités européennes incontestables et qui donnent sens, qui créent du lien entre la monnaie et les individus. Et donc ce hiatus fait qu'aujourd'hui, l'euro est la monnaie des Européens, mais les Européens ne sont pas attachés à leur monnaie. Et je pense que ça explique beaucoup d'idées fausses que vous avez soulignées, et ça explique ce caractère complètement irrationnel qu'on peut avoir par rapport à la perception qu'on a d'une monnaie qui, finalement, en 10 ans, ça fait 10 ans en fait qu'on a les billets et les pièces dans nos poches. Avant, l'euro existait 3 ans avant sur les marchés financiers, et la vraie création de l'euro, la vraie décision, elle date d'il y a 20 ans. Donc on célèbre aussi la 20e année de la création, de la décision politique de créer l'euro. Et je crois que tout ça explique le faible soutien, parce que les politiques ne soutiennent que ce qui est évident quelque part. Et en période de crise, quand les choses deviennent un peu floues, eh bien, on n'a plus personne pour porter la monnaie unique. Et on voit finalement que le seul porteur de la monnaie unique, ça a été le président de la Banque Centrale Européenne. Ce qui est un peu paradoxal, parce que ce n'est pas son job. Son job, lui, c'est de prendre les bonnes décisions en matière monétaire, mais ce n'est pas de porter la monnaie unique, de dire qu'en face, vous rappelez ce que M. Trichet a dit, il faut un ministre des finances, de l'économie et des finances de la zone euro. Ça, c'est le job des dirigeants politiques. Et ce qui est incroyable, finalement, c'est que depuis le jour où l'euro a été créé, on sait exactement ce qu'il faut faire. On sait que le pacte de stabilité, qui est un pacte qui repose sur les règles, n'était pas suffisant. On sait qu'il faut une stratégie de croissance qui permette de réduire l'hétérogénéité entre les États membres, parce que l'euro, l'Union européenne, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, et donc ça veut dire qu'il faut une politique de stabilisation macroéconomique volontariste à côté. Mais je vous dirais aussi que la Chine n'est pas une zone monétaire optimale, je vous dirais que le Brésil n'est pas une zone monétaire optimale, que l'Inde n'est pas une zone monétaire optimale, et pourtant on ne critique pas leur monnaie. Et ces pays continents ont des monnaies beaucoup plus faibles et beaucoup moins attractives aujourd'hui que l'euro. Alors si on doit faire un bilan de 10 ans d'euro, d'abord les réussites. Première réussite incontestable, c'est que l'euro est dans la vie de tous les jours. Les citoyens de l'Union européenne pensent en euros, ne pensent plus en francs. Ils ne font plus ce qu'ils faisaient au début, le comptage. Les jeunes générations, l'arrivée massive de jeunes générations a aussi accéléré. Et donc l'euro est la monnaie de 330 millions d'Européens. Et rien que ça, c'est un pari qui paraissait, il faut le rappeler, complètement incroyable.
Au début, ça paraissait très difficile. La conversion s'est faite, je crois, effectivement, dans les têtes. C'est vrai, pendant les premières années, rencontré autour de nous beaucoup de gens qui continuaient à penser en francs, à traduire les sommes en euros en francs. Aujourd'hui, plus personne ne le fait, il me semble. Enfin,
donc
peu
l'euro,
de monde, en tout
l'euro,
cas.
L'euro est une évidence, et je crois que c'est une évidence citoyenne. Et puis, ça a été un outil aussi, alors deuxième grand succès quand même, de prévisibilité pour les entreprises. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant l'euro, beaucoup d'entreprises avaient du mal à investir en Europe parce qu'il y avait cette fluctuation d'échanges. Et on voit aussi dans le cas des décisions d'entreprise pour s'installer dans un pays, beaucoup d'entreprises cherchent soit la zone euro, soit la zone dollar, mais une sécurité pour pouvoir investir. Et au moment où on dit il faut que l'Europe se réindustrialise, il faut assurer cette sécurité de stabilité monétaire, de stabilité d'échange. Et donc ça a permis aussi à beaucoup d'entreprises européennes, beaucoup d'entreprises françaises, de se développer à l'échelle de l'Union, et c'est une bonne chose. Et puis le citoyen de voyager naturellement dans les pays de la zone euro sans se poser la question du change de sa monnaie, mais c'est aussi un atout. On va en Italie aujourd'hui, on va en Espagne, on va au Portugal, on va à Chypre, on va en Allemagne, comme on va dans n'importe quel coin de la France. Et ce n'est pas rien finalement. C'est des petits détails de la vie de tous les jours, mais qui changent beaucoup de choses.
Ça, les gens l'oublient malheureusement, mais c'est effectivement un des avantages considérables de l'euro. Imaginez quelle était la situation il y a 13 ans, avant la création de l'euro sur les marchés financiers. Une entreprise qui exportait en Allemagne, par exemple, le pays voisin, ne savait pas quelle allait être réellement sa recette. Ça pouvait être plus ou moins selon la fluctuation du jour. Ça changeait tous les jours sur les marchés d'échange. Aujourd'hui, chacun sait exactement ce qu'il va recevoir en euros. Ou quelqu'un qui réservait, comme le disait Guillaume Clossat, un hôtel pour voyager en Italie ou au Portugal, s'il avait une somme à payer en lire italienne, par exemple, ça pouvait faire plus ou moins, une fois traduit en franc, selon le cours du jour, selon les humeurs des marchés. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on paye. C'est quand même important.
Puis on dit, malheureusement, les pays ne peuvent plus dévaluer pour récupérer en compétitivité. Et on oublie quelque chose, c'est que les pays, dans les années 80, début des années 90, ont fait beaucoup de dévaluations compétitives. Et ça a entraîné une guerre des monnaies, si bien que l'avantage gagné était perdu quelques mois après. Et ça crée une baisse du potentiel de croissance des pays concernés qui était finalement négatif pour tout le monde. Donc l'euro a eu beaucoup d'avantages, il a des avantages auxquels on ne pense pas, mais moi j'ai vécu comme conseiller spécial de Jean-Pierre Jouyet, la présidence française de l'Union européenne, et on a vu au moment de la chute de Lehman Brothers que l'ensemble des acteurs économiques et monétaires mondiaux étaient perdus. Et c'est grâce à la diplomatie de la Banque centrale européenne que les Américains ont réagi. Le fait d'avoir une puissance centrale de niveau mondial, qui a une diplomatie mondiale, permet de discuter avec les uns et les autres d'égal à égal. Imaginez ce qu'aurait fait la Banque de France toute seule. Rien. Quelle était la capacité d'écoute d'une banque nationale dans la crise mondiale? Rien du tout. Et on sait qu'on rentre, parce que le monde change, parce que les équilibres de pouvoir, de richesse changent dans une phase de crise qui va être assez durable, on a besoin, plus que jamais à ce moment-là, d'outils qui nous permettent d'exister, de négocier d'égal à égal avec nos grands partenaires mondiaux. Et puis, comment imaginer que, alors que la Chine est en train d'affirmer sa monnaie comme grande monnaie mondiale qui sera sur les marchés dans les années qui viennent, alors qu'on voit que le Brésil pense lui-même à créer sa zone monétaire, comment imaginer, alors que des pays sont en train d'organiser des zones de 300, 400, 1 milliard et demi, 2 milliards d'influence monétaire, de 2 milliards d'habitants, les Européens reviennent en arrière en reconstituant leur monnaie unique?
Alors l'euro est fort, il y a beaucoup de réussites, mais on aimerait vous demander quand est-ce que ça va se terminer alors? Quand est-ce que la crise va se terminer, qu'on va enfin pouvoir voir le bout du tunnel?
La crise européenne, c'est d'abord et avant tout une crise d'absence de perspective structurelle de croissance. Il se trouve que l'Europe vieillit de manière très rapide. On rentre dans l'année 2012, c'est l'année du papy boom, c'est-à-dire que les générations qui sont nées au lendemain de la guerre rentrent massivement en retraite. Et notre potentiel de création de richesse se réduit pour ça, mais il se réduit aussi pour une autre raison, c'est que nous n'avons pas créé les conditions d'une innovation suffisamment forte. Quand je dis « nous », c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui ont tiré les enseignements, il y a une dizaine d'années, de ce risque de faiblesse de la croissance, et ils ont mis en œuvre de véritables réformes. Et je pense notamment aux pays scandinaves, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, et les autres pays qui n'ont pas mis en œuvre cette réforme et qui n'ont pas anticipé ce risque sur la croissance se trouve dans une situation très difficile. Et on voit justement que, comme par un grand hasard, ce sont les mêmes pays qui sont en difficulté, qui ont des niveaux de dette qui sont jugés non soutenables par les marchés.
C'est très juste. Il nous manque effectivement principalement une politique de relance de la croissance par l'investissement et par l'innovation. C'est absolument fondamental. C'est clair qu'on ne va pas concurrencer les pays à bas salaire en étant moins cher qu'eux. Donc, il faut être meilleur qu'eux par la qualité, par les produits nouveaux, les techniques nouvelles qu'on est capable d'incorporer dans ce que nous fabriquons. C'est comme ça qu'on peut devenir meilleur et qu'on peut retrouver un sentier de croissance. Mais évidemment, si on prend des comparaisons avec des pays voisins qui, eux, n'ont pas voulu de l'euro. Le pays voisin le plus frappant dans ce domaine, c'est la Grande-Bretagne, puisqu'on a entendu récemment le Premier ministre britannique revenir d'un sommet où ça s'est très mal passé avec lui en disant qu'il était bien content de ne pas être dans l'euro. Mais regardons les faits, là encore. La Grande-Bretagne a choisi de ne pas être dans l'euro. Résultat, son déficit public est largement supérieur au déficit français ou au déficit moyen de la zone euro. Il est le double. Son taux d'inflation est plus du double. Ils ont 5% de taux d'inflation. Alors les gens disent qu'avec l'euro, on a de l'inflation, mais qu'ils aillent regarder ce qui se passe avec la livre sterling. Son commerce extérieur est en profond déficit, alors que pourtant c'est un pays qui a du pétrole, pas comme la France. Donc vous voyez que le choix dont se vante le Premier ministre britannique est un choix pour le moins contestable si on regarde les performances économiques.
Et, puis, il y a une contradiction,
et donc nos hommes ou femmes politiques qui disent on serait mieux sans l'euro, qui regardent un tout petit peu ce qui se passe chez les gens qui ont fait le choix d'être sans l'euro.
Puis je crois qu'il y a une contradiction britannique qui est assez extraordinaire, c'est que depuis 3 mois, David Cameron demande plus d'intégration de la zone euro, parce qu'il a compris que le succès et le rayonnement de la place financière de Londres dépendaient aussi de la vitalité de la zone euro. Et donc d'un côté, il demande plus d'intégration, et donc en vérité plus de fédéralisation de la zone euro, parce qu'il a intérêt à avoir une zone euro dynamique qui fonctionne pour pouvoir avoir une place financière de Londres qui rayonne. Je vous rappelle juste qu'à Londres, il y a plus de traders, il y a plus de financiers européens continentaux que britanniques, hein, il faut juste le rappeler. Mais de l'autre côté, il ne veut pas payer le coût ou ne pas avoir les contraintes d'une plus grande intégration européenne. Et donc, quelque part, les Britanniques sont un passager clandestin, et un passager clandestin qui est aussi une certaine responsabilité dans la crise, puisqu'ils nous ont empêchés de mettre en place à la fois l'intégration nécessaire, mais aussi le niveau de régulation nécessaire qui aurait permis de, non pas d'empêcher la crise, mais en tout cas d'en maîtriser certains aspects. Puis, quand on regarde les pays qui ont intérêt à l'euro, l'Allemagne a intérêt à une zone euro qui soit le plus large possible, parce qu'aujourd'hui, imaginons que la moitié des pays sortent de l'euro, l'euro va monter et les Allemands vont perdre en compétitivité à un moment où leur spécialisation est menacée par la Corée du Sud, par le Brésil, par la Chine et demain par l'Inde. Et puis même la Grèce n'a pas intérêt à sortir de l'euro, parce que la Grèce, traditionnellement, est une économie qui exporte peu. C'est une économie qui a fait son succès sur le tourisme. Et donc, si vous sortez de l'euro, vos importations, qui sont massives, vont voir leur coût s'accroître. Vos exportations, qui sont traditionnellement faites parce que vous n'avez rien à exporter véritablement, ne vont pas en profiter. Et comme vous avez atteint votre quasi-maximum en termes de potentiel touristique, vous allez perdre en valeur. Donc, c'est la pire des situations pour les Grecs. Donc, on est dans un paradoxe et il y a eu beaucoup de contresens de personnalités. On peut citer Emmanuel Todd, voire d'agitateurs, mais avec beaucoup de talent, comme Jacques Attali, mais qui crée un buzz, un débat sur l'existence de l'euro qui n'a pas lieu parce que le vrai débat, et Philippe Jorgensen l'a rappelé, il est sur la gouvernance de l'euro, il est sur la stratégie de croissance, il est sur la manière dont on rend nos dettes soutenables. Le problème, ce n'est pas d'être beaucoup endetté, c'est d'être capable de rembourser ses dettes. Et donc, le vrai sujet, il est là. Et il se trouve que dans un monde où des pays comme le Brésil aujourd'hui sont considérés comme des pays sûrs, eh bien, la perception du risque est accrue sur l'Europe et les spéculateurs accroissent encore cette perception du risque. Et donc, il y a un sujet qui est dans le combat mondial pour attirer des capitaux. Les Américains savent mieux faire ça que nous. Il faut être capable de rassurer et il faut être capable de porter des messages qui soient portés au niveau continental et compris. Et c'est là où on a une véritable faiblesse.
C'est tout à fait vrai. La sortie par le haut du problème de la dette, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On l'a oublié, bien sûr, aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, tout le monde disait que la Corée du Sud n'allait pas pouvoir rembourser sa dette. Elle avait une dette considérable. Bah, elle s'en est sortie avec des taux de croissance qui ont permis progressivement de réduire le poids de la dette sur le PIB. Même la Chine. Là encore, tout le monde dit aujourd'hui que le yuan est sous-évalué, que la Chine est le créancier du reste du monde. Il y a une quinzaine d'années, on se posait exactement les problèmes inverses. Tout le monde disait, mais bien sûr que le yuan chinois va être dévalué, bien sûr que la Chine n'arrivera pas à faire face à sa dette. Là encore, pourquoi elle s'en est sortie de la façon la plus brillante qui soit, avec de l'investissement et de la croissance. C'est aussi le chemin qu'il faut suivre.
Guillaume Closa, votre point de vue sur la construction de l'union politique, pourriez-vous nous parler de tout ce qu'elle peut engendrer?
Si vous voulez, moi ce que je trouve formidable, c'est que finalement, on a fait de l'Europe une réussite quelque part à la fois sur le plan monétaire, parce qu'on a quand même cette monnaie qui est forte, on a ce premier marché du monde, on reste, mine de rien, la première puissance économique mondiale, même si on ne l'assume pas. Quelque part, la place que prennent aujourd'hui le Brésil, la Chine, l'Inde dans l'échiquier mondial, elles auraient dû le prendre il y a 60 ans. Hein. On le rappelle, moi j'ai relisé Jean Monnet et il pensait que ces pays allaient arriver beaucoup plus vite. Il se trouve que le communisme en Chine, le social-étatisme en Inde et au Brésil, on retardait ce mouvement, mais ce mouvement était inéluctable. Et donc finalement, on a beaucoup de chance. Et puis on a créé, mis à part la Hongrie, mais la première zone de droit avec des valeurs, grâce à la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont des valeurs fondamentales et qui sont partagées par les citoyens européens. La dignité de la personne humaine, avec l'interdiction de la peine de mort, la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples.
La disparition des frontières aussi.
La disparition des frontières. Tout ça fait que, en vérité, l'Europe est un vrai, véritable espace de valeurs. On a de vraies convergences et de véritables intérêts communs. Et les modes de consommation des Européens sont très proches aussi. Et vous regardez aussi la dépense publique. Elle est très proche, en tout cas, entre les États de la vieille Europe, Royaume-Uni compris, avec un attachement véritable à la dimension sociale et un véritable modèle social européen qui a différentes réalités selon les pays, mais c'est quelque chose qui est très spécifique aux Européens. Et pourtant, il n'y a pas cette perception du tout. Il y a la perception d'une Europe technocratique Et quelque part, c'est pas faux, parce qu'on a oublié, ou en tout cas, on n'a pas assumé suffisamment ni la dimension démocratique, ni la dimension humaine et culturelle. Je vais vous donner un exemple. En plus de 40 ans, 46 ans de Conseil européen, il n'y a pas eu un Conseil européen qui porte sur la culture des chefs d'État et de gouvernement. Pas un seul. Pas un seul. Alors que paradoxalement, les pères fondateurs du projet européen étaient des gens extraordinairement cultivés, qui avaient une véritable culture, des références littéraires, des références artistiques, des références cinématographiques communes. Et tout ça, en 40 ans, en 50 ans, s'est dépité. Deuxième exemple, sur la mobilité des jeunes. Le programme Erasmus, on dit que c'est une formidable réussite. Oui, c'est une réussite. Tous ceux qui l'ont fait en sont heureux. Ça a un effet de levier parce que ça a incité beaucoup d'autres jeunes qui ne l'ont pas fait à aller à l'étranger. Mais en même temps, il n'y a que 2% d'étudiants qui l'ont fait.
Il y a très peu d'élus au programme Erasmus.
Il y a un droit qui a été créé, et moi je me rappelle parce que j'ai négocié, droit à la mobilité pour tous les jeunes en Europe en novembre 2008. Le Parlement européen, qui dit toujours qu'il n'y a pas assez de mobilité des jeunes, n'a pas veillé à le financer alors que c'est quelques milliards d'euros. Et donc, quelque part, le sujet aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que la société civile européenne, puisqu'il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de jeunes gens qui n'étaient pas du tout fédéralistes, qui aujourd'hui se disent « mais attendez, on a besoin de plus d'Europe, il faut être un peu raisonnable, il faut avancer ». Donc il faut que les citoyens, comme ils l'ont fait à l'époque de la Révolution, comme ils l'ont fait pour la République, comme ils l'ont fait pour l'unification italienne, comme ils l'ont fait aussi pour l'unification allemande, on oublie qu'il y avait des courants intellectuels pour ça, se disent « qu'est-ce qu'on veut véritablement ? Est-ce qu'on veut aller vers une étape avancée de la construction de la civilisation européenne ? Et est-ce qu'on est prêt finalement, après avoir inventé quelque part la démocratie, la cité, la république, la coopération institutionnalisée, inventer la nation, inventer l'étape d'après ? L'étape d'après, c'est la première démocratie véritablement plurinationale. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Il est de se projeter dans l'avenir, de récupérer, je dirais, l'envie de progrès, se le réapproprier et d'avoir une envie d'avenir, d'avoir une envie collective. Puisque tout le sens de l'humanité, quelque part, c'est comment vivre ensemble. En plus, on a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur nous. C'est que pour la première fois de l'histoire, on est conscient que nos ressources, les matières premières, vont diminuer, qu'avec une démographie qui reste galopante, en 10 ans, on a gagné 1 milliard d'individus. Il a fallu la création de la Terre jusqu'à l'an 1900 pour qu'on gagne 1 milliard d'individus. Les changements climatiques, qui sont quand même une réalité, on peut dire que c'est bon ou c'est mauvais, on peut discuter les causes, peu importe, on a des vrais sujets de gouvernance mondiale. Et si on n'est pas capable, nous-mêmes, de prouver que des nations et des gens qui sont très proches, qui ont finalement des histoires très proches, qui ont des valeurs qui sont communes, largement communes, ne sont pas capables de travailler ensemble et de mettre en place une véritable gouvernance politique et démocratique maintenant, eh bien ça veut dire qu'on sera incapable de gérer les grands défis du monde. Et les défis du monde, ce n'est pas pour dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est pour aujourd'hui.
Mais est-ce que la priorité n'est pas la gouvernance économique, Philippe Jurgensen ?
Oui, on l'a dit, la gouvernance économique doit absolument progresser. Et d'ailleurs, elle est en train de le faire en réalité. Alors ça prend trop longtemps. On dit souvent que le temps politique et le temps des marchés n'est pas le même. Enfin, ils finissent par se rejoindre tout de même à un certain moment. Et si on regarde un tout petit peu derrière nous, on doit bien constater qu'il y a des progrès tout à fait importants de la construction économique. Mais ce que dit Guillaume Clessa est néanmoins essentiel aussi. Pour que cette désaffection qu'on sent à l'égard de l'euro et peut-être même de l'Europe en général cesse, il faut absolument inverser la tendance. Il faut que l'Europe devienne plus proche des gens, que ce soit une Europe des citoyens. Et pour ça, effectivement, il faut plus de démocratie. Par exemple, un rôle accru du Parlement européen, des contacts beaucoup plus importants entre les institutions européennes et les parlements nationaux, mais aussi les institutions régionales, locales. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Il faut des symboles. Guillaume Clessa a parlé d'un symbole qui serait effectivement très utile, c'est d'avoir des grandes personnalités européennes sur les billets en euros. Mais il y en a bien d'autres.
Marie
pourquoi
Curie,
pas un timbre
Copernic,
européen
Copernic, Hugo, Vinci.
Oui, absolument. Enfin, pourquoi n'a-t-on pas encore un timbre commun en Europe ? Pourquoi ne joue-t-on pas plus souvent l'hymne européen à la place des hymnes nationaux ou en complément des hymnes nationaux ? La symbolique, c'est aussi très important parce que c'est quelque chose qui parle concrètement aux gens. Et puis, il faut, là encore, je rejoins tout à fait Guillaume, il faut une politique à l'égard des jeunes qui facilite encore beaucoup plus les échanges parce que c'est comme ça qu'on construit l'avenir.
À un an, deux ans, trois ans, vous voyez l'évolution comment ?
Et moi, je trouve que depuis trois ans, ça a déjà beaucoup évolué, plutôt positivement. On a eu ce fonds monétaire européen, enfin ce fonds européen de stabilité financière qui se transforme petit à petit en fonds monétaire européen. On a enfin ouvert le débat sur la gouvernance économique européenne. Maintenant, ce qui va compter, c'est l'étape d'après. C'est notamment le traité qui se prépare. Il ne faut pas que ce traité soit uniquement un traité qui sanctionne, mais il faut que ce soit un traité qui permette de définir une véritable stratégie de croissance européenne et qui renforce aussi la dimension sociale et démocratique.
Mario Monti avait proposé un nouveau pacte, plus de marché unique. On a besoin de plus de marché unique pour faire la croissance, notamment en matière de développement durable, en matière de nouvelles technologies et même en matière d'enseignement supérieur. Mais derrière, il faut réintégrer la dimension sociale et la convergence sociale. Et donc, il y a un pacte très clair, un nouveau pacte européen qui peut se dessiner. Je pense que les mois qui viennent vont être vraiment importants et la campagne présidentielle et l'ambition des candidats sur ce sujet et la manière dont ils vont le porter va aussi contribuer à enrichir ce projet de traité. Mais on peut avoir une étape structurante vers une vraie fédération européenne sui generis. On ne va pas refaire la fédération américaine, on ne va pas faire la fédération canadienne, on va s'inventer nous-mêmes un modèle qui permette de concilier démocratie nationale et une vraie démocratie plurinationale. Je crois que l'enjeu, il est là. Le livre est ouvert, mais la manière dont les individus vont se comporter dans les mois qui viennent et la manière dont les intellectuels aussi, dont les académiciens, puisque Canal Académie, dont les hauts fonctionnaires, dont les gens de la société civile vont agir, va être déterminante. Et nous, là je parle avec ma casquette Europa Nova, on organise le 10 mars prochain les États généraux de l'Europe avec une trentaine de débats sur tout le territoire préalable, mais c'est aussi une manière de canaliser les énergies, de créer des rapports de force pour signifier aux politiques qu'il y a des citoyens de toute génération qui veulent avoir une approche plus démocratique, mais aussi plus rationnelle du sujet européen et qui croient qu'on peut tout à fait combiner différents niveaux d'identité personnelle, régionale, nationale et européenne. Et quelque part, je crois que tout va dépendre de ce qu'on va faire.
Ce qu'on peut peut-être dire en conclusion, c'est d'abord que nous avons non pas trop d'euros et trop d'Europe, mais pas assez d'euros et pas assez d'Europe. Guillaume Clausel l'a dit, il a tout à fait raison. Il manque un pan de la construction. Ce pan, c'est le pan de la solidarité politique, de la gouvernance économique. On a une construction bancale. Et au fond, c'est sans doute cette perception diffuse de ce manque du deuxième pilier de la construction européenne qui explique ces inquiétudes tout à fait excessives, voire ridicules, sur l'avenir de l'euro. Et puis le deuxième facteur, c'est qu'effectivement, quelle que soit d'ailleurs la situation monétaire, nos pays ont besoin avant tout de retrouver de la croissance. Et pour ça, il faut se retrousser les manches, investir et innover.
Merci beaucoup Philippe Jürgensen et Guillaume Clausat.